dans une période country, non, country. Est-ce que ça marche, machin? Je m'entends pas. Si, un peu, voilà. Il faudrait un peu plus fort, parce que sinon ça m'oblige à mettre le micro dans le dentier. Non, j'ai pas de dentier. Ce truc que j'ai là, ce bijou, c'est quelque chose que j'ai acheté quand nous étions chez Osborne la première fois en 1979. Oui, c'est vieux, hein. Puis j'ai retrouvé ça. Je dis à Michou, mais où est-ce qu'il est? Alors on l'a cherché. Finalement, il était dans mon bureau. Là, j'avais complètement oublié où je l'avais mis. Ça fait plaisir de retrouver des vieux machins comme ça. Voilà. Eh bien, tout ça pour vous dire tout de suite ce que c'est, afin que vous ne posiez pas la question pendant toute la prédication, qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que c'est un truc sacerdotal ou quoi que ce soit? Non, non, c'est fabriqué par les Indiens là-bas, c'est tout simple. Presque tout le monde a ça. Si vous regardez Dallas, vous allez voir, JR en a un aussi. Non, enfin, j'en sais rien, si je crois. On va se lever et on va lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Moi, je dis que les Saintes Écritures ne contiennent pas de proclamation plus pertinente, de responsabilité plus obligatoire, d'instruction plus directe que l'ordre que Jésus-Christ a donné aux 11 ce jour-là en Galilée. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Quoi qu'on puisse dire, notre devoir le plus grand, c'est de prêcher l'Évangile ou de faire prêcher l'Évangile. Ce qui revient au même, si vous aidez à prêcher l'Évangile, eh bien c'est comme si vous prêchiez l'Évangile. Chaque disciple en cela est un missionnaire. Je voudrais dire ce matin que le temps est venu véritablement pour que les disciples s'unissent, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On dit toujours, le diable sait qu'il lui reste peu de temps, alors il est en colère. Et nous aussi, nous savons qu'il nous reste peu de temps et nous avons beaucoup à faire dans les deux bergeries. Rappelez-vous, Jésus a dit, j'ai des brebis encore d'une autre bergerie et il faut aussi qu'elles entendent ma voix. Et nous devons nous occuper, nous aussi, comme lui, des deux bergeries. Et il nous reste très peu de temps pour le faire. Alors il faut que les disciples s'unissent, il faut qu'ils œuvrent ensemble, il faut qu'ils travaillent dans la vigne du Seigneur pour lui amener ses brebis. Le Seigneur a préparé la voie pour qu'on puisse faire connaître son évangile d'une multitude de façons aujourd'hui. Qui aurait dit ça il y a encore 100 ans? Vous savez qu'il y a 100 ans, on était à la veille de la Première Guerre mondiale. Quand un pasteur prêchait, ben il prêchait. Puis après c'était fini, à moins que quelqu'un ait pris des notes pour écrire un bouquin. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de possibilités pour prêcher l'Évangile. Dieu nous aidera toujours dans notre tâche, si notre tâche numéro 1, c'est d'obéir à cet ordre extraordinaire que Dieu nous a donné, un ordre qui, c'est fantastique, il nous donne une responsabilité, celle d'agir en son nom, de parler en son nom. C'est une grande confiance, c'est une preuve de foi, il a foi en nous. Si nous agissons avec foi et si nous agissons avec amour, eh bien il nous aidera toujours à accomplir cette œuvre, parce que c'est son œuvre. Cette œuvre que nous voulons faire, cette évangélisation, le fait de prêcher l'Évangile, d'enseigner l'Évangile et ses principes, c'est quelque chose qui vient de son cœur. Il est en nous et c'est au travers de nous qu'il s'exprime. Tous les groupes chrétiens font appel pour que les missionnaires qui partent loin de chez eux puissent travailler en étant sans gêne, sans être gênés. Quand on témoigne, quand on prêche à la voisine, on n'a pas besoin d'avoir un soutien financier de missionnaire. C'est facile. Mais quand on part à l'autre bout du monde, et Jésus a dit, allez par toutes les nations, et je suis tout à fait conscient qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas aller à l'autre bout du monde, parce qu'il n'y a pas la santé pour le faire, ou parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire, d'une manière ou d'une autre, ils sont dans l'impossibilité. Et tous les groupes chrétiens font des appels, et nous ne faisons pas autrement. Nous avons une association qui s'appelle l'association C'est Faisable. Vous avez toutes les coordonnées sur la première page de notre site. Eh bien, notre association C'est Faisable récolte des fonds pour aider, premièrement, l'évangélisation et l'humanitaire. Parce que quand on va à l'autre bout du monde, eh bien, on est frappé de voir que vraiment ce que c'est que la vraie pauvreté. Aujourd'hui, je discutais sur Facebook avec des gens qui se plaignent ici en France. C'est vrai qu'il y a de quoi se plaindre, c'est vrai que ça marche, c'est pas formidable, c'est pas extraordinaire, mais on a quand même toujours la possibilité de s'en sortir par une aide de ceci ou par une aide de cela. Là-bas, il n'y a rien, mais rien. Je vais aller 12 jours avec Olivier et Francis là-bas, et Olivier l'a déjà vu, mais Francis, il va voir, il n'y a rien. Ils n'attendent rien, parce qu'il n'y a rien pour les aider. C'est ça les vrais pauvres. C'est ça les vrais pauvres. Alors, nous sommes obligés de faire de l'humanitaire. Ici aussi, on peut faire de l'humanitaire. On a toujours une voisine à qui qu'on peut aider, qu'on peut, un voisin qu'on peut aider parce qu'il ne peut pas aller faire ses courses ou ceci ou cela, mais on ne peut pas dire qu'il y a des pauvres comme là-bas, et puis surtout en si grande quantité. Ici, il y a tellement d'organismes pour aider, mais là-bas, il n'y a rien. À part ceux qui sont de bonne volonté et qui vont et qui font de l'humanitaire. Cette fin d'année, comme je vous disais, je vais partir 12 jours avec Olivier Navez et Francis Bélanger au Burkina Faso. Alors, nous n'allons pas prêcher là où les missionnaires blancs vont prêcher. C'est-à-dire que nous n'allons pas rester dans les grandes villes où il y a déjà des tas d'églises établies pour dormir dans les hôtels 3 étoiles. Ça m'est arrivé une fois d'aller dans un hôtel 3 étoiles là-bas à Ouagadougou, mais bon. Ce n'est pas mon truc, hein. Mon truc c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Nous évitons toujours les villes où toutes ces églises existent, il y en a partout, c'est frappant, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais nous allons loin, dans la brousse, là où il n'y a même pas de route pour aller. Des fois même il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de confort, il n'y a rien du tout. Et nous avons besoin d'un bus à chaque fois. Ça fait 13 ans que j'y vais, 13 ans qu'on loue chaque fois un bus. Et les bus... Là-bas, vous n'imaginez pas que c'est des bus avec la clim et tout. Quand vous sortez du bus, eh ben vous êtes tout rouge parce que la poussière dehors est rouge, la terre est rouge et ça rentre par tous les trous du bus. Et quand vous sortez du bus, vous êtes tout rouge, la tête aux pieds. Ben voilà, c'est comme ça. Alors là-bas en Afrique, vous avez les noirs, vous avez les rouges. C'est nous les rouges. Et chaque fois que je vais là-bas, on est obligé de louer un bus et ça nous coûte environ, ça dépend si on y va 12 jours, si on y va un mois, mais là, ça va coûter 1500 euros. Et si vous voyez le bus, plus pauvre que ça, ça n'existe pas. Mais enfin, il est solide. Chaque fois qu'on en prend un, il est solide. C'est Nicolas qui le choisit. Il faut qu'il soit solide parce que là où on va, c'est vraiment chaotique. Chaotique. Je me rappelle Alain Guillermo, il était à côté du chauffeur, c'était Ben qui conduisait, et Alain dit « Ah, il y a un trou, attention !» Mais il y a des trous partout, hein, tu veux faire quoi? Ils sont solides là-bas, les bus. Nous allons partir le 5 décembre, et mes frères et sœurs, on n'a pas le premier sou pour le bus. Pas le premier. Bien sûr, on compte sur Dieu. Hein. Toutes les missions évangéliques comptent sur Dieu pour l'œuvre missionnaire. Mais nous comptons sur le Seigneur qui vit en vous, qui est en train d'écouter, et je crois que vous serez bien inspirés par le Saint-Esprit qui vit en vous pour faire un don, selon vos possibilités, pour nous donner la main d'association pour prêcher l'Évangile. L'ordre est de prêcher l'Évangile. Cette fois, c'est Olivier et Francis et moi qui y allons. Nous allons pour prêcher l'Évangile. Et vous, en donnant selon vos moyens, vous faites prêcher l'Évangile. Ce qui revient au même. Ce qui revient au même. Parce que si on va là-bas et qu'on ne peut pas avoir de bus, ben on va être obligé de rester à Ouagadougou, où il y a déjà plein d'églises. Ou alors, on va devoir prendre un taxi. Vous imaginez prendre un taxi? D'ailleurs, on ne peut pas. Parce qu'aller dans la brousse, avec un il n'y a aucun taxi qui va aller dans la brousse. Même si vous voyez les taxis. Vous n'avez jamais vu un taxi à Ouagadougou? Il y a des chèvres dedans, ils mettent des... Et tout. Mais ils ne veulent pas aller dans la brousse. Je ne sais pas que c'est vrai, ils ne veulent pas aller les taxis dans la brousse. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Je remercie ici tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été fidèles dans leurs dons, parce que grâce à Dieu et grâce à ceux qui donnent en son nom, eh bien, nous avons déjà pu faire des merveilles là-bas. Et maintenant, depuis le temps qu'on y va, il y a beaucoup d'églises qui ont été créées, il y a il y a même un orphelinat maintenant qui existe, ils sont en train d'agrandir, Nicolas m'a montré des photos, il va pouvoir recevoir, là maintenant, je crois qu'ils sont 150 enfants, je crois qu'ils vont bientôt en recevoir encore 100. Il y a des terres cultivables et cultivées, il y a des fabriques de savon, il y a des écoles, bref, tout ça c'est le résultat de la bonne nouvelle que nous annonçons et des actions que nous faisons qui démontrent l'amour de Dieu. Et ce matin, eh bien, vous êtes venus ici pour être inspirés, ben voilà une bonne inspiration, et prêcher l'évangile ou faites prêcher l'évangile. On est venu ici pour être inspiré, on est venu ici pour être instruit. Et j'ai recherché l'aide de Dieu pour ce qui concerne le message de ce matin. Et je pense que ce matin, on n'est pas réunis pour écouter n'importe quoi. Vous ne venez pas parce que c'est la tradition. Je pense que vous venez parce que vous êtes conscient que le Seigneur vous parle. Et nous sommes rassemblés pour écouter ce que le Seigneur Jésus dit. Ça paraît très prétentieux de dire que je me tiens ici avec un micro et que vous êtes venu pour écouter Dieu. Ça paraît très prétentieux, mais c'est un acte de foi que je fais là. C'est sa parole, son conseil que vous êtes venu chercher. Et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu parle à son peuple par les ministères, par divers ministères. On reçoit beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'on en reçoit beaucoup? Je trouve qu'on en reçoit trop en ce moment même. On en reçoit beaucoup là, hein. On m'entend bientôt plus prêcher ici. Et de tout temps, les serviteurs de Dieu ont rassemblé les gens du peuple du Seigneur pour leur annoncer les choses à venir, ou pour leur donner des commandements, ou pour leur donner des conseils. De tout temps, il y a eu ça, de rassembler le peuple de Dieu pour des moments où ils écoutent. Maintenant, c'est pas un moment de réunion, de communion fraternelle, c'est un moment où on écoute, où on s'instruit, où on apprend quelque chose. Quand Jésus est venu sur cette terre, eh ben, il a fait la même chose que les prophètes d'avant lui. Il a instruit des multitudes, il réunissait des gens. Et puis ensuite, Pierre, il a continué ce système, il réunissait des croyants pour leur parler. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté. Maintenant, dans toutes les dénominations chrétiennes, c'est comme ça. Et c'est la meilleure manière de le faire. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés ici et qui ont enseigné à cette chair étaient, j'espère, je le crois de tout mon cœur, envoyés et inspirés selon la direction que le Seigneur leur a donnée. Ils ont cherché, je le crois de tout mon cœur, l'inspiration de son esprit, et je ne leur ai jamais imposé un thème, je n'aurais pas dit, écoute, voir, il faudrait que tu parles de ça et ça et ça, jamais. Voilà, le Seigneur les inspire. Mais ils se sont confiés au Seigneur, je le crois de tout mon cœur, dans le jeûne, dans la prière, dans l'étude, dans la méditation, comme doit le faire tout serviteur de Dieu qui est soucieux du bien-être du peuple. Vous savez, Dieu agit comme ça. Faut pas oublier, quand Dieu agit une fois comme ça, il agit tout le temps la même chose. Il veut que nous étudions corps, âme et esprit, c'est-à-dire que nous mettions notre corps à part dans un endroit spécial, tranquille, et il veut que notre âme, notre intelligence se mette en contact avec notre esprit qui, lui, est en contact avec le Saint-Esprit, et que nous pensions, que nous réfléchissions, que nous étudions les textes sacrés, et ensuite que, après avoir réfléchi, après avoir pris des notes, eh bien, nous demandions humblement au Seigneur, est-ce que c'est juste? C'est comme ça que ça vient. C'est ainsi que viennent les inspirations, mes frères et sœurs. Et cette vérité, elle est bonne pour les vieux, mais elle est aussi bonne pour les jeunes. Avant de venir ici à la chapelle, vous avez préparé votre cœur, c'est-à-dire vous avez étudié dans votre esprit ce que vous désirez recevoir de votre Père, ce dont vous avez besoin, vous y avez réfléchi, vous avez pensé, vous en avez parlé avec votre épouse, votre époux, avec quelqu'un que vous aimez bien, et puis vous êtes mis dans votre lieu secret, et puis vous avez cherché, et puis vous êtes venu, et ce dont vous avez besoin, cela vous sera accordé dans des moments comme celui-ci. Combien de fois j'ai eu des témoignages de frères et sœurs du sanctuaire qui m'ont dit, je parlais justement à mon épouse de ça hier soir et paf, tu en parles. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Ça arrive tout le temps. Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un de spécial? Non, mais simplement, il y a le ministère. C'est le ministère. Moi, vous me connaissez personnellement, vous savez ce que je vaux, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais il y a le ministère. Le ministère, c'est autre chose. Et c'est le ministre que vous êtes venu écouter et non pas le gueulu, j'entends, hein, mais le ministre. Dans ces moments particuliers de culte, c'est comme cela que le Seigneur parle au peuple. Il vient, il peut pas, c'est difficile pour lui de parler au peuple quand le peuple arrive sans avoir préparé son cœur. On ne met pas une bonne semence dans un terrain qui n'est pas préparé. Ce n'est pas logique. Demandez à n'importe quel paysan. Vous avez vu, ils sont déjà en train de travailler maintenant dans les champs avec toutes sortes d'appareils. Je ne sais même pas ce que c'est que ces des trucs, des monstres. Ils ont des, c'est formidable. Même la nuit, ils travaillent. Ils font quoi? Ben, ils préparent le pain qui sera sur votre table dans un an. C'est vrai? Donc, tout ça, ça se prépare. Le terrain se prépare. Vos cœurs doivent se préparer. Vous devez, sérieusement, autant que le serviteur de Dieu qui doit prêcher, vous devez préparer vos cœurs, vous aussi. Et c'est bon pour les vieux, mais c'est bon pour les jeunes aussi. Ici, on a compris que ça serait commettre une grave erreur que de penser que les enfants, les jeunes, ne peuvent pas comprendre ce que Dieu dit. On a compris ça, et c'est pourquoi on n'a pas fait une petite salle à côté où les enfants vont s'amuser avec une monitrice ou un moniteur. Non, 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 ils sont là et ils écoutent la parole de Dieu. Ils comprennent ce que Dieu veut qu'ils comprennent. Si les enfants, les jeunes gens écoutent attentivement, eh bien, le Seigneur leur dira ce qu'il veut qu'ils fassent pour leur avenir. Ils seront inspirés. Mais encore faut-il que vous écoutiez attentivement. Alors au début, on n'écoute pas attentivement. Et puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose, il y a une phrase. Et puis alors on tend l'oreille. Et puis voilà, on commence à rentrer dans ce processus d'écoute. Écoute, c'est difficile. C'est pas donné, hein. Il faut le cultiver, l'écoute. D'ailleurs, on dit toujours les 10 commandements, on oublie que le premier c'est écoute. C'est le 11e, premier. Écoute, il faut apprendre à écouter. La plupart des gens n'écoutent pas, ne savent pas écouter. Ils pensent sans arrêt qu'est-ce qu'ils vont dire une fois que la personne qui est en train de parler aura fini de parler. Ils n'écoutent pas parce qu'ils sont en train de combiner dans leur tête ce qu'ils vont dire. Alors, c'est pourquoi maintenant il y a des publicités, je ne sais pas si vous avez vu, au sujet des psychiatres. Allez parler à quelqu'un qui sait écouter. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub. Ben il faut que nous devenions des psychiatres. Qu'est-ce que c'est un psychiatre? Un psychologue, c'est quelqu'un qui s'occupe du psy, c'est-à-dire de l'âme. Si vous ne savez pas écouter l'âme des autres, si vous ne savez pas écouter le cœur de Dieu, ben c'est très difficile pour vous de pouvoir comprendre quelque chose et de pouvoir améliorer les choses de votre vie. Dieu veut vous parler directement pendant les moments de culte ici. C'est mis à part pour ça. Parce que son esprit est le porte-parole, il porte la parole qui sort jusque dans votre cœur, dans des termes que vous pouvez comprendre. Et c'est pourquoi je dis et je répète et je redis et je redirai encore que ce qui est dit ici n'est pas aussi important que ce que vous entendez. Ce qui est dit ici sur la chair n'est pas aussi important que ce que vous comprenez. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important ce qui sort d'ici, mais c'est plus important ce que vous entendez. C'est pourquoi ici, nous sommes dans le calme et nous sommes attentifs. J'étais frappé, l'autre jour, notre frère Blawa a prêché très bien et il cherchait des amens, des alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand dans les églises, tout le temps, toutes les fins de phrase, ils disent amen, alléluia. Tiens, on va essayer, vous allez voir ce que ça fait. Est-ce que vous êtes content ce matin? Alléluia, vous êtes heureux ce matin, gloire à Dieu, amen. Oh, combien le Seigneur est bon, amen. Oh, Dieu est bon, dis à ton voisin que le Seigneur est bon, dis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux faire ça, n'importe qui peut faire ça. Mais nous avons choisi d'être calmes. Ce n'est pas une critique que je fais sur notre frère Blawa, c'est dans toutes les églises comme ça, presque toutes les églises. Mais nous avons décidé d'être calmes et attentifs, de façon à ce que la voix, le chuchotement de l'esprit puisse être clairement entendu et ressenti et compris. C'est nécessaire, parce que c'est un moment précieux. Alors, je vous assure, quand on fait comme ça, amen, alléluia, sans arrêt dans la réunion, celui qui prêche, c'est très bien, parce que il y a un rythme, et quand on fait ça, c'est très agréable. Dans l'évangélisation, c'est très bien, parce que, voilà, le message est hyper simple. Mais quand on va plus loin dans la parole de Dieu pour s'occuper des choses, c'est un peu de la chirurgie fine, alors là, il vaut mieux être calme et pas trop faire de bruit. Depuis quelques années, on a observé des changements dans toutes sortes de choses. Et je me rappelle qu'au début, eh bien, nous avons été fortement secoués dans ce monde. On était incompris, même persécutés, salis, etc. Puis maintenant, ça s'est calmé, ça va mieux. Mais il faut faire attention parce que ça va revenir, mes frères et sœurs. Ça va revenir. Je ne sais pas si vous avez entendu tous les serviteurs de Dieu qui ont passé ici. Ils vous disent tous la même chose. Attention, il y a des moments difficiles qui vont arriver. Vous pensez que c'est difficile maintenant, vous n'avez rien vu. Parce que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu et nous, nous nous rapprochons de plus en plus de Dieu. C'est-à-dire que le gouffre est de plus en plus grand et le monde s'en rend compte parce qu'ils peuvent nous écouter. Ils peuvent nous voir, nous sommes visibles, on ne se cache pas. Pas encore. Il faudra un jour qu'on se cache sûrement, même en France. Excusez-moi, c'est mon côté humain. J'éternue. Des fois, vous pouvez être étonné et vous demander, mais pourquoi le prêcheur, il parle de ça, ou ceci, ou cela, mais pourquoi il dit ça? Je voudrais vous dire, j'ai une absolue confiance en Dieu. Lui, il sait pourquoi ses serviteurs parlent de ceci ou de cela. Même des fois, les serviteurs de Dieu ne savent même pas pourquoi ils disent ceci ou cela. Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il ne savait même pas pourquoi il écrivait toutes ces choses. Il ne comprenait rien du tout à ce qu'il écrivait. Il faut le dire, mes frères et sœurs. Notre seule sécurité en tant que membre du corps de Christ, et pour vous qui êtes fidèles ici à l'église locale du sanctuaire, notre seule sécurité, c'est d'écouter les paroles et les commandements que le Seigneur nous donne par l'intermédiaire des ministères. Parce que c'est par la parole que tout est soutenu. Tout a été créé par la parole et tout est soutenu par la parole. Il faut que vous soyez au clair avec la parole. Certaines choses dites par le Seigneur vous demanderont de la patience, vous demanderont de la foi, parce que c'est de la nourriture qui est difficile à avaler. Rappelez-vous du serviteur de Dieu à qui Dieu a dit « Mange ce livre, ça sera amer dans ta bouche, mais après ça sera comme du miel. » Et très souvent, alors on se lasse parce qu'on dit « Mais c'est amer, j'aime pas cette parole, j'aime pas. » Peut-être que vous n'aimez pas ce que dit tel ou tel serviteur de l'Évangile. Peut-être que ça va être en contradiction avec ce que vous, avec vos opinions, avec vos idées sociales, avec je ne sais pas quoi. Mais si vous écoutez ces choses, d'abord vous êtes venu, c'est pour écouter quand même. Alors mettez-vous au top pour l'écoute. Si vous écoutiez les choses comme elles sortaient, comme si elles sortaient de la bouche de Jésus lui-même, eh bien, avec de la patience et de la foi, eh bien, vous avez la promesse que de toute façon, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Alors écoutez, vous avez la promesse que le Seigneur Jésus dissipera les ténèbres, dissipera la puissance des ténèbres, dissipera le pouvoir des ténèbres et qu'il ébranlera les cieux pour vous, pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour le bien de vos ancêtres, pour la gloire de son nom. Il va le faire, mais il faut que vous écoutiez, pas que vous soyez en train d'avoir un bavardage intérieur, même si ce que vous entendez ce n'est pas en accord avec votre façon, avec votre doctrine, que c'est écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'était le grand problème de tous les gens qui se réunissaient pour aller écouter autrefois les bons vieux prophètes. Alors moi, je me rappelle quand j'étais gamin à l'école en Suisse, on avait une heure d'école biblique le samedi, et puis ensuite le lundi, on avait une heure d'interrogation biblique. Donc, il fallait étudier les textes. Ça, la Suisse, c'est un pays protestant. Je me rappelle tous mes copains catholiques qui sortaient. Puis nous, on était là et on apprenait. Et quand je lisais ça et que j'étudiais ça et que j'écoutais le prof, ou on ne disait pas prof, on disait le maître ou la maîtresse. Eh bien, je me disais toujours, mais est-ce qu'ils étaient bêtes, ces juifs? Mais pourquoi ils n'écoutaient pas les prophètes? Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les chrétiens. C'est dommage de ne pas croire simplement ce que le serviteur de Dieu dit. Dommage. C'est dommage. Ça retarde les choses dans votre vie. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ébranlera les cieux pour votre bien, si seulement vous écoutez. Comment Jean, par exemple, je parlais de Jean tout à l'heure, comment Jean savait-il les choses qui arriveraient à notre époque? Comment? Parce qu'il était mandaté par Dieu pour le dire. C'était son ministère, le ministère de la parole révélée. Et les prophètes qui vivent aujourd'hui sont faits de la même pâte que lui. Je suis sûr que si vous aviez mangé à la table de Jean, peut-être vous auriez été dégoûté, parce que peut-être qu'il mangeait comme un cochon. J'en sais rien, mais je dis ça comme ça. Il devait bien avoir des défauts, Jean, non? Bon, ben voilà, On a tous nos défauts. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé? Les défauts, la cravate, ou écoutez la parole de Dieu qui sort. Les prophètes vivants d'aujourd'hui, ils sont faits de la même pâte que, quand je dis prophète, hein, n'imaginez pas le prophète à la façon catholique ou à la façon hollywoodienne. Je vous parle de prophètes, c'est-à-dire d'hommes qui sont là pour dispenser la bonne parole de Dieu. Un prophète, il n'est pas seulement là pour dire l'avenir, mais il est là pour dire les choses que Dieu veut dire à son peuple, là, maintenant. Un prédicateur, c'est un prophète dans ce sens. Si vous écoutiez, si vous les écoutiez, vous seriez fortifié, vous seriez protégé, parce qu'ici, on vient, comme autrefois, les gens allaient pour entendre la parole du Seigneur. On dit, je vais écouter la parole de Dieu, mais c'est vrai. Nous venons ici pour l'entendre et nous sortons pour la vivre. Alors après avoir entendu le message qui sort d'ici, allez dans votre lieu de méditation, demandez à Dieu de pouvoir bien comprendre. Demandez-lui, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai, sur lequel j'ai passé, qui est important et que je n'ai pas saisi? Préparez votre cœur ensuite pour le prochain rassemblement. Parce que Jésus n'a pas fini de parler, mais si déjà vous n'avez pas mangé l'entrée complètement, qu'est-ce que vous allez faire avec le plat de résistance quand il va venir? Quand on écoute, on ne comprend pas forcément toute la pensée de Dieu. Alors, vient le temps, c'est pourquoi ils ont mis par écrit à l'époque. Et il vient ensuite le temps, après avoir écouté une première fois, le temps de votre méditation, de vos prières, pour comprendre ce qui vous a été enseigné. Il faut le chercher, il faut le cultiver. La révélation, c'est quand la parole est donnée, elle est révélée. Et puis ensuite, vous fortifiez votre conviction par la réflexion. Pour comprendre ce qui vous a été enseigné, c'est nécessaire de méditer. Et puis alors après, vous pouvez aller puis faire la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, décidez avant de venir ici que quand vous sortirez, il y aura de nombreux domaines de votre vie que vous allez pouvoir perfectionner. Il faut que avant que vous veniez ici, vous fassiez une liste de ce que vous devriez perfectionner. On en est tous conscients de ce qu'on doit perfectionner. Et puis, décidez-vous de vous mettre au travail. Croyez, décidez avant de venir que vous allez recevoir des paroles qui vont vous aider à vous perfectionner. Et puis ensuite, en sortant, réécoutez ces messages. Méditez sur ce qu'ils contiennent. Il y a plus à gagner de ces sermons quand vous les étudiez seuls chez vous que quand vous les écoutez ici. Il y a plus à gagner de ces sermons quand vous les étudiez seuls chez vous avec votre Bible, une concordance, un dictionnaire, un carnet et un stylo. C'est comme ça qu'on médite. Ce n'est pas dans la position du lotus. Ça fait mal aux genoux, ça fait mal aux hanches, ça fait mal partout. Alors faites-le, mes frères et sœurs, faites-le. Ne soyez pas légers avec ces choses. Ces rassemblements du dimanche, ces rassemblements du vendredi, ce ne sont pas des moments de communion fraternelle. Dans les églises, c'est le seul moment où ils ont des moments de communion fraternelle, parce qu'ils ne voient pas leurs frères et sœurs tout le reste de la semaine. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est juste un moment où on vient pour écouter ce que Jésus a à nous dire. Ils avaient aussi des réunions dans l'église primitive. On pourrait dire, vous voyez, ils avaient des réunions, donc ils n'étaient pas réunis tout le temps. S'ils étaient réunis tout le temps pour la vie normale, pour bouffer, pour travailler, pour ceci, pour ça. Mais il y avait des moments spéciaux où ils venaient pour écouter. C'est là que Eutychus s'endormait. Pas chaque fois, hein. Mais une fois il s'est endormi, puis il est tombé par la fenêtre, le pauvre. Hein, celui-là, quand on va arriver au paradis, il dit donc, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé au paradis pendant 2000 ans avec cette histoire que je suis tombé par la fenêtre. Ah, mais t'avais qu'à pas t'endormir. Ouais, mais quand même, vous auriez pu être un petit peu plus gentil avec moi. Vous n'arrêtez pas de me citer un exemple. Mauvais exemple, ouais, l'autre qui s'est endormi. Oh, faire attention. Je sais bien que des fois, on est soporifique. Hein, il n'y a pas que moi qui suis soporifique. Moi, je suis très soporifique. Vous savez ce que je fais le dimanche après-midi? Je me mets sur mon... Je dis ça pour ceux qui écoutent Internet. Ceux qui sont ici, ils savent. Je me mets sur mon lit et je réécoute mon message. Je n'écoute pas 10 minutes que déjà je dors. Je suis soporifique. Mais moi, je n'ai pas besoin de méditer sur ce que j'ai dit, puisque j'ai déjà médité avant. D'accord? Alors, ce rassemblement du dimanche et du vendredi, c'est des moments où on vient pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Nous, si, il va nous parler, si nous croyons qu'il va nous parler. Et aujourd'hui, chose extraordinaire qui ne s'est jamais produite en histoire, vous pouvez réécouter ces messages. C'est quand même formidable. Téléphone. Autrefois, le téléphone, ça servait à... Aujourd'hui, vous pouvez faire... Même on peut repasser notre linge avec notre téléphone. Le mien, il commence à chauffer un peu. Je suis sûr que bientôt, je pourrai repasser mon linge avec. On peut tout faire avec ça. Et là-dedans, il y a des bibles, il y a des dictionnaires, il y a tout ce qu'il faut. C'est extraordinaire. On n'a jamais vécu. Vous pensez quoi? Si c'est arrivé maintenant, cette technologie qui nous permet de réécouter, c'est parce que maintenant, nous en avons plus besoin que jamais. Et nous en avons besoin. Et nos chers disparus en ont besoin. Ils ont besoin que vous fassiez ce que vous devez faire. N'importe qui, n'importe où peut entendre ces messages, n'importe quand. Ça n'a jamais existé sur Terre. Aucun prophète n'a fait ça. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un temps spécial, c'est le temps où il faut vraiment racheter le temps qui nous reste, il est court. Notre grande responsabilité, c'est d'agir rapidement, efficacement, en son nom, de faire les choses que nous avons à faire. Nous occuper de ces deux bergeries. Jésus a dit, j'ai des brebis qui sont d'une autre bergerie, il faut aussi qu'elles entendent ma voix. Puis il est allé leur prêcher. Hein? Vos ancêtres ont besoin des ordonnances sacrées. Le temps qui reste à travailler dans cette bergerie-là, il est aussi court que le temps qui nous reste à travailler en Afrique, ou dans d'autres pays, ou même dans notre pays. Remercier ceux qui vont travailler sur les marchés, c'est formidable de faire ça. Surtout hier, il faisait froid, ils sont gelés, les pauvres frères et sœurs qui ont travaillé là-bas hier. Il faudra qu'on fasse une collecte pour acheter un chauffage, pour mettre sous le petit chapiteau. Et puis, il n'y a pas que vos ancêtres, vos enfants ont besoin que vous soyez au clair avec la vérité révélée aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'avoir devant eux des modèles à suivre, ils ont besoin d'avoir des modèles qui sont construits, qui sont solides et qui sont efficaces. Ça doit être construit, ça c'est vous qui construisez. Le Saint-Esprit est avec vous quand vous vous mettez à bâtir. Mes frères et sœurs, ce matin, on est venu pour adorer Dieu, on va avoir un moment d'adoration, c'est vrai, mais on n'est pas venu que pour ça, nous sommes venus pour l'écouter. On ne doit pas ressortir d'ici sans rien. Prenez ce que Jésus vous offre ce matin. Prenez ça sérieusement. Mon Dieu, je vais écouter sérieusement pour vivre sérieusement les choses que tu attends de moi. Parce que je vis dans un temps spécial où les choses qui doivent être faites n'ont jamais été faites, où tu nous donnes des possibilités qui n'ont jamais été données afin que nous les utilisions. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à réaliser dans quel temps nous vivons. C'est vrai, nous sommes sollicités par tant de choses, mais nous devons nous discipliner à nous occuper premièrement de ta parole, du royaume, de la justice, de ce qui est sacré, de ce qui est saint, pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Et ce que nous avons à faire, c'est prêcher la bonne nouvelle. Alors c'est vrai que nous ne pouvons pas aller prêcher aux morts, mais nous pouvons faire notre part pour leur salut en nous faisant baptiser à leur place. Nous pouvons prêcher aux gens, mais nous ne pouvons pas tous forcément aller prêcher au Tibet ou je ne sais où. Mais nous pouvons aider à faire prêcher en soutenant l'œuvre missionnaire. Merci mon Dieu de ce que personne n'est laissé en reste, mais que tout le monde peut prendre une part active dans cette œuvre que tu nous as confiée en cette fin des temps, pour que des milliers et des milliers soient sauvés au travers de la chair que tu nous as donnée, que tu nous as fait le privilège de pouvoir avoir un corps de chair et nous voulons le mettre au service de ton œuvre. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Les musiciens.